D'accord, Pornhub. Ok. Moi, ça m'arrive. Bah, d'ailleurs, sur Pornhub, il y a une catégorie qui s'appelle populaire chez les femmes. C'est pas pour rien. Et c'est d'ailleurs même ça aussi un sujet très tabou. C'est comme la masturbation féminine. C'est un sujet de moins en moins tabou, mais ça l'était encore beaucoup à une époque.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, l'épisode 2 sans notre cher Mathieu Noël qui pouponne actuellement mais qui je suis sûre nous écoute entre deux biberons. Alors je vous conseille quand même de boucher les oreilles innocentes de son petit bébé car le thème du jour est interdit aux moins de 18 ans. Et oui, comme Quentin, vous sentez la chaleur monter dans vos joues et pas que. À l'écoute de cette musique que vous connaissez bien, aucune honte à avoir, vous êtes des millions dans ce cas. Plus de 133 millions pour être précise, car c'est le nombre de visiteurs quotidiens sur le site Pornhub. En 20 ans, il est devenu une vraie référence en matière de films pornographiques. Il a même longtemps été dans le top 10 des sites les plus visités au monde, devant Netflix ou Amazon. Par an, plus de 5 millions de vidéos sont mises en ligne sur Pornhub.
Samantha, tu as le visage tout rouge, tu as fait un masque ou un nettoyage de peau ?
Non, je me suis masturbée tout l'après-midi.
Alors, se faire plaisir en regardant un film X, ça n'a jamais fait de mal à personne. Évidemment, Samantha Jones en sait quelque chose, mais les dessous de Pornhub ne sont pas remplis que de fantasmes et de jouissances, bien au contraire. C'est ce qu'a montré une enquête édifiante du New York Times sortie en 2020. Le journal a révélé que le site hébergeait des centaines de vidéos montrant des agressions sexuelles, des viols, du revenge porn, mais aussi des mineurs, le tout sans modération. Conséquence, des voix se sont élevés, des associations se sont créées, des partenariats se sont terminés et des millions de vidéos ont été supprimées. Mais comment l'un des sites les plus consultés au monde a-t-il pu héberger un tel contenu pendant si longtemps sans avoir été inquiété par les autorités ? C'est la question que notre invité se pose dans son livre « L'Empire du sexe, la vraie histoire de Pornhub ». Entre culture du viol, misogynie, racisme et pédophilie, non, vous n'êtes pas dans un numéro d'enquête exclusive, mais bien sur Zoom Zoom Zen.
France Inter. Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière.
Et bonjour Nora Lamontagne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal, membre du groupe de journalistes de Québécois, l'une des plus importantes équipes de journalisme d'investigation du Canada. Vous êtes d'ailleurs en ce moment en duplex de Montréal grâce aux moyens techniques de nos amis de Radio-Canada. Et vous venez de sortir, je l'ai dit, L'Empire du sexe, la grande enquête sur Pornhub, publiée par les éditions du Journal. Une enquête que vous avez co-réalisée avec vos collègues Jean-François Cloutier et Nicolas Brasseur. Alors, vous allez nous raconter ce qu'il se cache dans les coulisses de Pornhub, l'un des sites les plus visités au monde. En attendant, je vous présente mes deux compères. Alors, celui à ma droite a connu le porno à une époque où Jackie et Michel n'étaient que des prénoms de grands-parents à la mode pour regarder un film, pas le choix. Il veillait tard le soir pour enregistrer avec sa petite cassette, le seul film de la semaine diffusé sur Canal+. Et en plus, fallait être discret, car tout ça, c'était sur la télé familiale du salon. Bonjour Cyril. La carrière, j'imagine que c'était un peu difficile.
Bonjour Manon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, il fallait bien se cacher, effectivement. Ouais. Je programmais l'enregistrement sans que mes parents me grillent. Effectivement, c'était une grosse cassette, vous savez, cassette VHS.
Ah oui, voilà. Un magnétoscope,
et c'était,
tout ça.
Le premier samedi du mois sur Canal+.
Jamais grillé, jamais.
Oh. Je crois pas, ou alors ma mère a été pudique.
Je pense que ça devait plutôt ça, on l'embrasse d'ailleurs. À ma gauche, il revient du sud avec le teint allé des bonjours. Bonjour, quant à lui.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Et oui, scandaleusement bronzé.
Ouais, c'est scandaleusement.
Adèle Vendrette m'a dit que j'avais très bonne mine.
Oui, oui, oui. Vous pouvez le regarder en vidéo. Alors, Quentin, je sais que l'annonce du thème de cette émission vous a quelque peu émoustillé. Votre historique d'ordinateur l'atteste.
Brigitte Lahaye, Sud Radio. Ah.
Brigitte Lahaye, chanson. Brigitte Lahaye, voix. Brigitte Lahaye, livre, dis donc. Et encore, je garde les autres pour moi pour éviter de révéler tous vos fantasmes. En attendant, vous êtes allé demander aux passants leur relation avec le porno.
Oui, alors loin de ma relation avec Brigitte Lahaye, là, c'est pas forcément que du fun qui est ressorti, vous l'entendrez. C'était à quel âge votre premier porno ? Quelle catégorie recherchent les femmes ? Pourquoi hentai, Japanese, BBW, c'est problématique ?
Vous savez pas ce que c'est,
Si, je sais ce que c'est. On l'a appris dans la rue. On a réussi à parler de tout ça dans ce micro-trottoir de Zoom Zoom Zen.
Le complètement la rue, ça sera dans une vingtaine de minutes. Et puis à la nuit, on retrouvera un Zoom Zoom test d'anthologie présenté par la comtesse Marie de Breuer. Et en fin d'émission, je vous présenterai ma personne à suivre, une actrice porno française qui milite pour un porno plus éthique. Mais tout d'abord, Nora Lamontagne, je parlais de l'enquête du New York Times en introduction. On va y revenir en détail. Mais est-ce que ce sont leurs révélations qui vous ont donné envie d'enquêter sur Pornhub ?
En quelque sorte, oui, c'est l'élément déclencheur. On se rappelle, en 2020, il y a un scandale qui éclate. C'est la panique chez Pornhub. On efface carrément 80% du catalogue. Les cartes de crédit, les largues, ils doivent comparaître aussi devant le Parlement canadien. Et nous, trois ans plus tard, on se disait, mais qu'est-ce qui est arrivé depuis? Et on n'en entendait plus vraiment parler. Puis on se dit, mais comment ça se fait qu'on en connaît si peu sur cette compagnie qui est très opaque, mais pourtant qui est un géant du web et qui, après tout, est basé à Montréal, chez nous, à quelques kilomètres des bureaux où il y a 1000 employés qui sont ici. Comment ça se fait qu'on n'en connaît pas plus sur les débuts de cette compagnie et sur ce qui a permis les dérapages qui étaient révélés par le New York Times?
Très bien, on va y revenir. Alors lui, il a découvert Pornhub à seulement 30 ans. Il venait de quitter le FBI et pour noyer sa peine d'agent déchu derrière sa télévision, il a fait la rencontre d'une jeune femme au doux nom de Tabata Cash. C'est ça, Cyril ?
C'est ça.
Très bien.
C'est elle.
Elle a été là dans des moments durs et grâce à elle, Cyril, la carrière a repris goût à la vie, n'est-ce pas ? Une jolie histoire qui me permet de vous poser cette question, Cyril. Pornhub, d'où ça sort ?
Pierre Courade en revient, direction le Canada. C'est là qu'en 2007, un groupe d'étudiants un peu nerds et un peu débordés par leurs hormones ont une idée maligne et même très maligne. Centraliser tous les contenus porno qui circulent sur Internet, et Dieu sait qu'il y en a, Dieu, et ben non, Marianne, il le sait aussi. En 2007, on est au tout début de YouTube, mais déjà les plus futés ont compris que c'était une véritable révolution. Ces étudiants en font partie et c'est donc tout naturellement qu'ils veulent appliquer la recette de YouTube aux vidéos pour adultes. À la manière du YouTube des débuts, on était dans l'artisanat, un truc très simple. Tu filmes, tu mets en ligne et les utilisateurs regardent. Là encore, c'est une technique qui s'est appliquée au porno.
Et trois ans plus tard, le destin de cette plateforme balbutiante est bouleversé par deux entrepreneurs.
Un autre Canadien, d'abord Matt Keiser, totalement inconnu du grand public, ce Matt Keiser navigue déjà à ce moment-là dans le porno. Avec son entreprise Mansef, il produit et distribue des contenus pour adultes. Et c'est là qu'arrive le second entrepreneur, un Allemand, celui-là, Fabien Tillmann. Tillmann qui rachète Mansef, qui devient Manwin, puis MindGeek. Et c'est avec MindGeek que l'homme d'affaires se paye Pornhub. Fabien Tillmann transforme Pornhub en une véritable entreprise tournée vers le business du porno. Et dans le porno, le business, c'est très lucratif. À Pornhub, Tillmann ajoute RedTube et YouPorn pour créer une véritable galaxie de sites X. L'entrepreneur allemand finit par se transformer en Quentin lui, il fuit le fisc, mais lui, il se fait rattraper. En 2013, il est obligé de vendre sa boîte, moins de 80 millions de dollars. Quand on y pense, aujourd'hui, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'est devenu YouTube. Et aujourd'hui alors, à qui appartient YouTube ? Pornhub, justement. Pourquoi est-ce qu'une part de mystère entoure cette question ? Est-ce que Pornhub, c'est légal ? Est-ce que tout y est autorisé ? Pourquoi ce site échappe à la réglementation ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Nora Lamontagne, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Pornhub, un nombre assez minime, soyons réalistes, mais ceux qui ne sauraient pas ce que représente réellement Pornhub, est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler quelques chiffres ? J'ai cité tout à l'heure 133 millions d'utilisateurs quotidiens. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Oui, c'est des chiffres, ça fluctue un peu, là, mais bien entendu, c'est un géant du web. On regarde les palmarès, puis on réalise que n'importe quel soir donné, ce soir, il y a autant de gens à peu près qui vont aller sur Netflix que sur Pornhub, par exemple.
Et pour quel chiffre d'affaires ?
Là, c'est plus dur à chiffrer. Ils sont très secrets, mais c'est bien entendu, c'est des millions par année. Les Français sont de très grands consommateurs. J'ai fait quelques petites recherches avant de venir vous voir. Donc, les deuxièmes en chiffre absolu, mais ils passent en moyenne 9 minutes 48 par visite sur le site.
Dis donc.
C'est relativement court. Vous dites que ça a été, vous l'avez dit tout à l'heure, particulièrement difficile d'enquêter sur cette entreprise. Vous dites que derrière la vitrine, il y a un mur et que personne ne souhaite parler. Pour quelle raison, à votre avis ?
Ben, à la base, le porno, effectivement, que c'est un sujet assez tabou. C'est rare qu'on en parle à la radio, d'ailleurs. Merci pour l'invitation. Mais, c'est tabou de un. Et de deux, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on sache exactement comment ça fonctionne. Que les dirigeants aient eu des choses à se reprocher pendant des années. Bon, moi, je les comprends peut-être de ne pas vouloir s'exprimer à part devant les tribunaux. Mais ça reste que, moi, ça a été extrêmement difficile de parler à certaines personnes. Et il y a eu des centaines d'employés qui ont travaillé là pendant des années. Il y a eu plusieurs dirigeants qui se sont succédés. Donc, au début, on se disait, mais il y a bien quelqu'un qui va accepter de nous parler. Et ça a été très, très, très difficile de convaincre des gens qui s'y connaissaient réellement, qui étaient dans les plus hautes sphères de l'entreprise, de nous expliquer, mais comment ça fonctionnait à l'interne et qu'est-ce qui est arrivé, finalement? Comment est-ce qu'on a pu permettre des dérapages comme ça pendant des années?
Mais alors, qui dirige Pornhub aujourd'hui?
Aujourd'hui, alors ça a été racheté en 2023, mais il y a eu une petite clique pendant les années MindGeek, qui sont celles à peu près des années 2010. Cette petite clique se surnommait entre eux le Bro Club, le club des bros. Ouais. C'est ça. Et en fait, il y a eu un vent de renouveau qui a soufflé sur Pornhub. On a nommé une nouvelle chef de marque qui est une femme dans la trentaine, qui est dans l'entreprise depuis plusieurs années. Mais dans les faits, quand on gratte la surface, c'est encore et toujours le même Bro Club qui est aux commandes. Ce sont les mêmes hommes qui étaient là au début des années 2000, qui étaient là pendant toute la période où il y a eu les pires excès et qui, encore aujourd'hui, tirent les ficelles de la plateforme.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lee, Cyril Lacarrière.
Qui va arrêter le géant de l'industrie pornographique, Pornhub ? Peut-être notre invitée, Nora Lamontagne, qui est avec nous en duplex de Montréal depuis le studio de nos confrères de Radio-Canada et qui vient de sortir une enquête, L'Empire du sexe, la vraie histoire de Pornhub, parue aux éditions du journal. Alors Nora, une question, pourquoi c'est Pornhub qui a émergé de tous les sites pornographiques qui existent ?
C'est vrai qu'à la base, il y en a quelques-uns quand même qui prédatent Pornhub. Je pense à YouPorn, par exemple, qui est un précurseur, RedTube aussi. Ouais. Ce qui fait vraiment la force de Pornhub, c'est le référencement. Donc, très vite, Matt Keiser, dont on a parlé un peu plus tôt, qui est on l'appelle le génie du SEO, qui est le Search Engine Optimization. C'est la façon de parler aux moteurs de recherche comme Google et de s'assurer que ses contenus arrivent en première place. Donc, Matt Keiser, très rapidement, met un système en place et Pornhub se retrouve au premier rang des moteurs de recherche et depuis ce temps-là, ne l'a jamais vraiment quitté.
Et Nora, vous dites dans votre livre que dès le début, il y avait la volonté de publier des contenus de plus en plus extrêmes sur Pornhub. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire que c'est aussi, on regarde ce qui fonctionne, on regarde le nombre de clics. Pornhub et l'entreprise derrière sont obsédés par ces clics et ils s'assurent de mettre les contenus sur lesquels les gens regardent le plus finalement. Et il y a un glissement de plus en plus vers des contenus plus extrêmes. Vous me direz peut-être que c'est quelque chose qui se voit ailleurs sur le web aussi, dans la pornographie en général, mais c'était très apparent sur une plateforme comme la leur.
Quel contenu extrême, pardon, pour avoir des exemples concrets?
Tout dépend, parce qu'il y a les contenus qui sont produits professionnellement. Donc, il y a des studios qui mettent leur propre bande-annonce sur Pornhub, par exemple. Mm-hmm. Et là, il y a des contenus, que ce soit du BDSM, que ce soit des trucs violents, que ce soit des scénarios, ce qu'on appelle pseudo-incestueux ou pseudo-pornographie juvénile. Donc, on se dit, OK, c'est des adultes consentants, ils sont majeurs. On s'imagine que tout le monde était d'accord pour filmer le film, mais ça reste que c'est du contenu extrêmement violent. Et de l'autre côté, il y a des abus sexuels des gens qui n'ont jamais consenti à apparaître dans un vidéo pornographique ou à apparaître sur Pornhub. Mmh. Et ça, c'est une autre catégorie complètement. Et à mon sens, c'est ce qui est le plus troublant chez Pornhub. C'est-à-dire qu'ils ont diffusé pendant des années des milliers de ces vidéos-là qui, à première vue, ont peut-être l'air tout à fait normaux ou corrects. Mais en fait, quand on comprend dans quelles conditions ils ont été tournés ou que les gens qui y apparaissent n'ont jamais voulu que ce soit diffusé à grande échelle, bien à ce moment-là, ça constitue un crime que de diffuser du contenu de nature sexuelle de façon non consensuelle.
Alors justement, oui, on en a parlé tout à l'heure, on a évoqué l'enquête du New York Times en 2020. Il y a eu une purge à ce moment-là. Oui. Est-ce que la purge a vraiment eu lieu? Quels contenus ont été concernés? Et qu'est-ce qui est resté après sur la plateforme?
Donc, en 2020, c'est ça, il y a une purge. 80% du contenu, du jour au lendemain, disparaît de Pornhub. Ce qu'ils choisissent d'effacer, c'est les contenus qui sont téléchargés par des utilisateurs anonymes. Donc, on ne sait pas vraiment d'où ça provient. Ils disent, on ne prendra pas de chance, on efface tout ça. Par la suite, quelques mois, quelques années plus tard, ils ont implanté de nouvelles règles. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en ligne une vidéo sur Pornhub. Monsieur, madame, tout le monde doivent prouver leur identité, leur âge et le consentement. Vous me direz, c'est peut-être la base.
Mais comment ils doivent prouver leur identité? Ils doivent, je sais pas, faut fournir leur papier, parce que c'est difficile de prouver son identité sur Internet.
Oui, mais ils ont une espèce un outil où est-ce qu'il faut mettre une preuve d'identité, que ce soit un passeport, une carte, quelque chose comme ça, comparé avec la photo. C'est un système qui est assez avancé, qui a été officiellement mis en place pour tous les vidéos en 2024 seulement.
Pornhub se défend aussi peut-être parce qu'ils hébergent, ils ne sont pas producteurs, ils sont hébergeurs. Ça protège l'entreprise dans ce sens-là?
Ah oui, cette nuance-là est super importante. C'est-à-dire que Pornhub, depuis toujours, ils disent « Oui, mais c'est pas nous, c'est les utilisateurs. Mmh. » Ce sont eux qui ont produit les vidéos, ce sont eux qui les ont mis en ligne. Et dans les faits, il y a une vieille loi américaine qui date des débuts d'Internet qui tend à leur donner raison, c'est-à-dire que cette loi-là, dédouane les grandes plateformes. Parce qu'on se disait à l'époque, mais on peut pas les tenir responsables de tous les contenus que les utilisateurs mettent sur leur plateforme, ça n'a aucun sens.
Oui, mais ils doivent les modérer quand même.
Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun incitatif à modérer les contenus parce que tant qu'ils retirent un contenu après qu'on leur fait la demande, ils sont protégés par cette loi-là. Mm. Donc, chez Pornhub, par exemple, il y avait des modérateurs. Il y en a quelques-uns. Environ 80, selon les allégations contenues dans les poursuites. 80 modérateurs qui étaient basés en Chypre pour les millions de vidéos dont on a parlé plus tôt. Ça vous donne une idée. Mm. Et il y avait aussi une seule personne qui était assignée à la tâche de réviser les vidéos qui avaient été signalées par les utilisateurs. Il y a un petit drapeau rouge en bas de chaque vidéo si on trouve que peut-être que c'est questionnable, qu'on se pose... Et il y avait une personne qui avait ses vidéos à vérifier. Il y en avait 700 000 dans sa liste d'attente au moment où ces chiffres-là ont été révélés.
C'est peu dire que j'attendais ce complètement à la rue sur Pornhub, déjà pour savoir comment Quentin a réussi à dissimuler tous ces petits kinks coquins aux gens dans la rue, mais aussi pour savoir si les passants parlent facilement de leur consommation de porno. Alors Quentin, que se passe-t-il dans la rue quand le mot du jour de Zoom Zoom Zen est celui d'un site porno?
Eh bien, on est surpris, Cyril, à l'image de ces deux copines que j'arrête, qui me regardent un peu bizarrement quand elles découvrent...
Ok. D'accord, Pornhub. Ok. Ok.
Pourquoi où là?
Bah, parce que... Ouais, voilà, un peu tabou et tout.
Vous connaissez Pornhub?
Bien sûr, tout le monde, je pense.
Bah oui, un peu tabou, mais tout le monde connaît. Je leur montre un graphique des catégories porno les plus recherchées sur Pornhub en 2024.
Ouais, et ça m'étonne pas du tout. Parce que, comme le montre votre petit sondage, le plus recherché, c'est les hentai. Dans les hentai, c'est quoi? C'est des jeunes filles, souvent très jeunes. On le dit pas, mais elles ont des petites voix, très mignonnes. Elles sont souvent très innocentes, rasées à blanc. Quelles sont ces caractéristiques-là? C'est les caractéristiques d'un enfant. C'est des enfants qui n'ont pas de poils, qui sont innocents, qui sont vierges, qui n'ont aucun cheveu blanc, aucune ride, aucune expérience. Et ça, pour moi, ça représente vraiment l'apologie des relations sexuelles sur les enfants, tout simplement.
Mais alors elles, je leur demande si elles vont quand même sur Pornhub.
Moi, ça m'arrive. Bah, d'ailleurs, sur Pornhub, il y a une catégorie qui s'appelle « Populaire chez les femmes ». C'est pas pour rien. Et c'est d'ailleurs même ça aussi un sujet très tabou. C'est comme la masturbation féminine. C'est un sujet de moins en moins tabou, mais ça l'était encore beaucoup à une époque.
Qu'est-ce qu'on trouve chez « Populaire chez les femmes »
Qu'est-ce qu'on trouve « Populaire chez les femmes » Beaucoup de contenus lesbiens. C'est soit des contenus beaucoup plus doux, donc dans le thème massage, ce genre de choses, soit justement beaucoup plus brutal, très limite violent. Rarement un entre-deux, mais beaucoup de contenu lesbien, ouais.
Ben, lui, a 26 ans, les mains dans les poches, le sac à dos vert, le baggy. Il découvre le sujet du jour de Zoom Zoom Zen.
Pornhub, c'est... Je pense que... Il y a un truc d'éducation en ce moment, c'est ça? Je pense que quand on pense à Pornhub, on voit tout l'aspect sombre du truc. Alors que c'est aussi... Il y a aussi un côté... le plaisir sexuel, genre, sans le dramatiser, tu vois. C'est pas un problème majeur dans la société, je pense.
Alors que je fais une petite pause café sur un banc public, après tout, au moment où j'enregistre cette chronique, je suis en vacances, ces deux jeunes femmes s'installent à côté de moi, amusées par cette histoire de micro France Inter qui traîne dans la rue. Bonjour, bonjour.
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 Est-ce que je peux avoir vos prénoms?
Rania, Fatma.
Et vous faites quoi cet après-midi alors?
On discute.
De quoi?
De la vie.
Et la vie est belle?
À peu près.
À peu près. Je leur demande ce que leur inspire le mot Pornhub.
Un site porno.
À quel âge vous êtes allé pour la première fois sur un site pornographique?
Trop tôt. Je dirais quand j'avais 11 ans.
Ah ouais?
Ouais. J'étais dans une classe où on n'était que 3 filles et le reste c'était que des mecs. Et il y avait un peu une pression, on va dire. Enfin, les garçons, ils en parlaient tout le temps. En cours de techno, ça mettait ça dans le fond de la classe sur les ordinateurs.
Ça mettait Pornhub en classe?
Ouais, ou sur les téléphones en bas du truc, enfin pour rigoler. Je trouve ça dégueulasse, mais j'étais aussi curieuse.
Et alors t'as 11 ans, t'y vas? Qu'est-ce qui se passe?
Je suis apeurée, et ça me dégoûte très tôt. Et j'étais pas très bien, quoi.
Intéressant de noter aussi comment la rencontre avec le porno peut être violente, traumatisante, et que l'effet groupe d'une classe au collège peut t'amener à voir ce que tu ne voulais pas ou ne devrais pas voir à cet âge-là. Nous parlons des catégories les plus recherchées sur Pornhub l'an dernier.
Hentai, MILF. Bon, hentai, j'ai pas trop d'avis dessus. MILF non plus, mais lesbienne, Japanese,
Pinay,
voilà, oui. Tout ça, c'est des trucs BBW, etc.
Tu peux nous dire ce que c'est BBW?
Big Black Woman. Très objectivant sur certaines catégories de la population. Bah, c'est malheureux qu'il y ait certaines catégories de femmes qui sont fétichisées. Ouais.
Et avant de partir, je leur demande ce qu'elles en pensent justement de ce phénomène-là.
Perso, je ne fréquente pas d'hommes, mais le peu que je fréquente ont souvent des styles très arrêtés, on va dire, sur certaines ethnies ou sur certains corps. Genre, je me rappelle qu'il y a quelques années, le terme le plus recherché sur les sites porno, c'était beurette, donc des femmes maghrébines. Et encore une fois, c'est voir des femmes racisées dans un prisme sexuel lorsque c'est pas la vision première qu'on a, par exemple, des femmes blanches. Et c'est malheureux. Par exemple, on m'a déjà dit que j'avais une bouche de beurette et que ça devait bien sucer, alors que j'avais rien demandé.
En 2025, dans la rue, la question qu'on peut se poser est la suivante. Qu'est-ce qui se cache derrière une catégorie sur Pornhub? Qu'est-ce que ça raconte de notre société? Des animés pornographiques mettant en scène des personnages aux traits enfantins, au répertoire ethnique, qui peuvent se transformer en insultes dans la vraie vie. Posez-vous la question la prochaine fois que vous cliquerez sur une catégorie, qui peuvent être tout de même des miroirs très révélateurs de notre époque.
Merci Quentin. Nora Lamontagne en direct de Montréal pour nous parler de son enquête L'Empire du Sexe, la véritable histoire de Pornhub, la vraie histoire de Pornhub. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous raconte Fatma sur les clichés, les insultes, la fétichisation, tout ça? Est-ce que c'est aussi la faute du porno et de Pornhub?
C'est sûr que Pornhub capitalise sur ces catégories. Oui. On est sur la page d'accueil et tout de suite on nous propose des catégories extrêmement précises. Il y a des algorithmes aussi qui encouragent parfois certains contenus qu'on va nous proposer à répétition. J'ai l'impression que c'est un peu un cercle, c'est-à-dire que à partir du moment où on démontre un intérêt pour une catégorie ou une autre, ben c'est ce qu'on va nous donner ad vitam aeternam. Maintenant, c'est sûr et certain que la pornographie a une influence sur la façon dont on conçoit la sexualité, la façon dont les adolescents la découvrent aussi de plus en plus. Nous, on s'est concentré sur la compagnie derrière, mais il y a des enquêtes aussi à faire au niveau psychologique sur les effets que ça a sur la vie en société, oui.
Je reviens sur ma première rencontre et sur le classement des catégories les plus recherchées. Le hentai, pour vous, c'est l'apologie du fantasme pédophile ou elle va trop loin en disant ça?
Je pense qu'il y a toutes sortes de catégories dans le hentai. Je ne suis pas une spécialiste, mais à la base, c'est du dessin animé, c'est des traits qui sont exagérés. Et oui, parfois, c'est très enfantin. Mais encore là, ça se voit dans d'autres types de scénarios aussi. Il y a des vidéos réelles qui adoptent les mêmes codes qui sont ceux de la pseudo-pornographie juvénile. Les lulus, les filles qui portent des broches, qui sont pas maquillées, parfois qui sont habillées de façon très, très enfantine. Donc, la limite est vraiment mince. Où est-ce qu'à partir de... Où commence le fantasme et c'est-à-dire où termine le fantasme et où commence la vidéo de nature criminelle, c'est pas toujours facile à déterminer.
On a entendu dans le micro-trottoir une jeune fille dire qu'elle avait accédé à un site porno, à Pornhub, à 11 ans. On sait que les sites sont dans le viseur pour essayer de réguler et de réglementer leur accès. Ici en France, on essaie de mettre en place des systèmes pour que l'identité soit vérifiée, l'âge surtout soit vérifié, la majorité. Est-ce que on sait si chez Pornhub, on prend cette menace d'être banni au sérieux ou est-ce que c'est surtout très symbolique et un combat de façade?
De ce que j'entends, c'est que c'est pris très au sérieux parce qu'évidemment, il en va un peu de leur modèle d'affaires. Il y a des États aux États-Unis qui ont imposé des lois où est-ce qu'on oblige les plateformes comme Pornhub à vérifier absolument l'âge de leurs utilisateurs. Et Pornhub, plutôt que d'implanter un tel système, s'est carrément retiré de ces États-là. C'est une décision qu'ils ont prise, mais je sais de source sûre que c'est un sujet qui les préoccupe au plus haut point. D'ailleurs, ils font du lobby. Eux, ils disent qu'ils sont pour la vérification de l'âge. Simplement, c'est pas eux qui devraient en être responsables, c'est plutôt au niveau des appareils que ça devrait être fait. Donc, on a un téléphone, on achète le téléphone et on prouve au téléphone à Apple, Samsung, peu importe, qu'on a bel et bien 18 ans une fois pour toutes. Et à partir de là, c'est comme si ça débloquerait l'accès à tous les sites pornographiques, plutôt que ce soit fait auprès de chaque site individuellement. Donc, on règle le problème une fois pour tout à la base. Mais il y a beaucoup de... C'est un courant de fond hein, en France, au Canada, aux États-Unis, en Australie. C'est partout dans le monde, on commence à se demander mais comment ça se fait que c'est aussi facilement accessible sur le web? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Et en fait, c'est que la solution n'est vraiment pas simple. Je sais aussi aux États-Unis, il y a eu la Louisiane qui est un cas particulier où eux, ils ont dit, bon, on a un système d'identité numérique. C'est le seul État où Pornhub a bien voulu tester la chose. Et ce qu'ils ont constaté, et c'est aussi dans une étude scientifique qui est sortie récemment, une baisse de 50 % à 80 % du nombre d'utilisateurs qui visitent leur site web. Donc, les gens refusent de s'identifier. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a un déplacement. Donc, plutôt que de ne pas regarder de porno du tout, mais ils vont aller chez les compétiteurs. Et les compétiteurs qui ont peut-être des règles plus souples concernant les contenus, la modération des contenus, l'accès justement aux mineurs. Et donc, on ne fait que déplacer le problème avec la solution qui a été choisie en Louisiane. C'est vraiment compliqué comme enjeu.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Zoom Zoom Zen se penche aujourd'hui sur la face cachée de Pornhub et je dois avouer que je suis curieuse de voir le Zoom Zoom Test que va nous présenter Marie De Brouwer. Marie, bonjour.
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 Un Zoom Zoom Test écrit par ce cher Gérald Darnaud qui m'a dit tout à l'heure ce sera un blind test où il faudra deviner les voix des acteurs porno.
Ben, c'est pas vrai.
Toujours acteur, très classe.
Non, c'est... Non. Actrice.
Je sais pas, peut-être les deux, mais il me semble que c'était une vanne. Je l'espère du moins. Marie De Brouwer, c'est à vous.
Alors, juste avant de démarrer ce quiz, je tiens à faire une petite remarque. Voilà, l'attention des personnes en charge de la documentation. Pour préparer les émissions, Lola, Romain, le sujet c'est Pornhub et qu'est-ce que vous nous sortez? Des PDF. Bon les gars, sérieusement, on fait un sujet sur un site internet et vous n'êtes même pas fichu de mettre un petit lien pour y accéder. Bravo, voilà. La Gen Z.
Ah ouais.
Et pour commencer ce quiz. Mais ça part, on est sur les sounds. Je suis Mathieu Noël ou quoi? Pour commencer ce quiz sur le plus célèbre site Olé Olé, parlons chiffres avec une question où vous allez avoir la réponse très rapidement puisque vous en parlez depuis une heure. En 2024, quelle était la recherche numéro 1 mondiale sur la plateforme? A. Tradwife. B. Hentai. C. Bouya.
B.
Oh, bravo, c'était réponse B. Victoire de Manon. Et non, réponse C, évidemment, était valable que pour l'historique de négation de Quentin. Ce sont donc les vidéos d'animés qui sont les plus demandées par les utilisateurs du site, sachant que Japanese arrive en deuxième position. Voilà, et chez les internautes français, c'est French qui décroche la deuxième place, Cocorico.
Vous avez mis une petite musique asiatique?
Oui, c'est ça. Ouais. Bah, vraiment, Mathieu Noël, c'est l'idée. Le racisme.
C'est gentil pour lui.
On l'embrasse, bien sûr.
Oui, bah oui.
Maintenant, on clique sur Gay Savoir et on continue. En 2017, qu'a fait Pornhub pour le 1er avril? A. Il renvoyait les utilisateurs sur un faux site Association canadienne des agrégés de mécanique des fluides. B. Les vidéos en ligne étaient des extraits de documentaires sur la reproduction animalière. C. Après le visionnage d'une vidéo, un pop-up apparaissait avec le message « Merci pour avoir partagé votre vidéo sur les réseaux sociaux ».
B.
Oh, je vais dire C, parce que franchement, ça serait très drôle.
B, C, et bien bravo Manon, c'est la réponse C. Et oui, un petit message. Et hasard ou coïncidence, c'est le 1er avril 2017 que Cyril a clôturé son compte Facebook et a fait son premier Malasvagal. Heureusement qu'il lui reste copain d'avant.
Elle rigole, on prend ses propres
bruitages. Je découvre les blagues. On continue. En 2019, Pornhub lance la campagne The Dirtiest Porn Ever, le porno le plus sale en VF. D'après vous, en quoi consistait cet événement? A. Il s'agissait de sensibiliser les visiteurs du site à la surconsommation alimentaire. B. Un concours de vidéos amateurs mettant en scène des gens qui ne se lavent pas. C. Pornhub voulait alerter sur la pollution des plages.
B.
Ah, C. Je vais dire C pour changer.
B. Tu vas dire C?
Ouais.
Eh bah, bravo Quentin, c'est la réponse C. Petite réponse qui mérite d'être développée.
Oui, bien sûr.
En 2019, Pornhub s'allie à l'organisation Ocean Polymers, je ne sais pas, qui lutte contre la pollution des océans.
Ils découvrent les blagues et les textes.
Tout. Attendez, ils ont publié une vidéo d'un couple amateur qui souhaite se filmer sur une plage, sauf que celle-ci est une véritable décharge. Et au fur et à mesure de la vidéo, on découvre une équipe de nettoyage qui s'affaire pour permettre de découvrir la version... Enfin, pour découvrir les petits loustiques en train de faire des igouigouis. Voilà, j'ai plus mon texte, je suis en impro.
Très bien, Marie.
Et voilà, après, chaque visionnage a entraîné des dons à l'association.
Ah,
c'est magnifique.
Bien, c'est bien fait.
Prochaine question. Manon, Quentin, Cyril, quel est le point commun entre Pornhub, YouPorn et Red tubes. A. Ils appartiennent à la même multinationale. B. Les trois ont été donnés comme prénom. C.
Oh non.
Ce sont des anagrammes de divinités scandinaves.
B.
Les
B.
trois.
B. Ah non, les non. trois.
C.
Eh bien, personne n'a la bonne réponse.
C'est quoi ?
C'était la réponse A. Ils appartiennent à la même multinationale.
Ah.
Et oui, oh, c'est... l'empire du porno.
J'espère que ce soit un peu plus fun.
Ouais. Ah ouais, bah, le B, ça aurait été marrant.
Bah, ça aurait été plus marrant de lui donner comme prénom. Ouais. Bob Pornhub, le petit loustique. Ça ne va pas du tout. Et c'est un empire du porno qui s'appelle Halo, dont vous en avez parlé, qui est également propriétaire des sites Brazzers, Reality King et Quentin Lui Productions. Un vrai poids lourd de l'industrie du X, une sorte de LVMH, de la zigounette. Et pour terminer, voilà une petite dernière question. Nous allons dézoomer et faire un pas de côté, hein, élargir le champ des possibles avec ce qu'on appelle dans le milieu du quiz broder, quand on n'a plus d'idées, avec un vrai ou faux, un petit peu claqué. Voilà, je vais vous citer des films, des titres de films coquins, et vous devez me dire s'ils existent ou pas.
Ah, j'adore.
C'est un vrai faux. Ça vous va ?
Allez.
Ok. Premier titre. Coupe-toi les ongles et passe-moi le beurre.
Non, vrai, faux, vrai. Faux.
C'est vrai, ça.
Et bah, c'est pour Quentin.
Ah, vrai.
Et oui. Presque 1970, un film réalisé par Ted Rother avec Maddie McGuire et Chris Warfield.
On note, on note.
Évidemment, faut tout noter. Ensuite, deuxième titre, 20 000 vieux sous mes mères.
C'est vrai, c'est vrai, ça.
Oh, bah, c'est Manon qui l'a eu en première. Et c'est vrai, évidemment, un drame intimiste français de 86. Et on me dit dans l'oreillette que c'est Quentin qui a gagné, mais pour moi, c'est Manon.
C'est pas grave, c'est
merci. 7 points, Manon, j'ai décidé. Ok, troisième titre, Zoom Zoom Ken.
Oh, non, faux. Ah, c'est dommage.
Faux, faux, ouais.
Manon, j'ai senti qu'elle y a cru une seconde.
Non, mais c'est un bon nom de chronique,
c'est
pour le coup.
Évidemment faux. Hein,
un chouï vulgaire.
Pas, nous ne sommes pas assez connus. Dernier titre, le Brakmar News.
Oh, non, pas faux.
C'est une sextape
également.
Non, d'accord. Okay.
Faux
le
également.
Le Brakmar News.
Bon, c'était défaite du bon goût, mais victoire de Manon.
Ah ouais.
Oui, bravo.
Merci. Impressionné. Voilà, par
bravo.
Moi-même.
Bravo.
Comment l'un des plus gros sites internet est-il devenu un repère de violences sexuelles et de pornographie juvénile ? On poursuit aujourd'hui notre plongée dans les méandres de Pornhub avec celle qui a enquêté sur le site Nora La Montagne en duplex des studios de Radio-Canada à Montréal. Nora, dans votre livre L'Empire du Sexe qui est paru au journal, aux éditions du journal, pardon, vous parlez pas mal de l'accès au porno. On en a parlé juste avant. Chaque mois, selon l'ARCOM, 2,3 millions de mineurs se rendent sur des sites pornographiques. Est-ce qu'on sait si Pornhub fait du lobbying pour empêcher les différents systèmes qui pourraient être mis en place pour limiter l'accès au porno? On parlait tout à l'heure de la Louisiane, mais est-ce que voilà, ils empêchent d'autres États et d'autres pays de le faire?
Ils font du lobby en fait pour que leur solution, celle dont on parlait, que ce soit pas eux qui soient responsables de vérifier l'âge des gens. Mm-hmm. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ils sont inscrits pour le Parlement canadien au registre des lobbyistes. Mais tout ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils s'adressent aux tribunaux pour faire reporter, pour faire repousser le plus longtemps possible le fait que la loi s'applique ou entre en vigueur. Je pense que ça a été le cas en France, ça a été le cas au Royaume-Uni, en Allemagne. C'est le cas au Canada aussi. Donc, il y a cette volonté-là d'utiliser les tribunaux à leur faveur pour repousser finalement la date où est-ce qu'ils devront se plier à de nouvelles règles pour vérifier l'âge par eux-mêmes.
Nora, il y a un site que vous citez beaucoup dans votre livre, c'est Trafficking Hub. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son importance aujourd'hui?
Oui, mais en fait, c'est une militante américaine, Laila Mikowate, qui est très importante dans cette histoire et qui fait une genre de croisade. Donc, c'est une militante qui est plutôt associée à l'extrême droite américaine, côté un peu évangéliste aussi. Et elle a publié, en fait, elle fait beaucoup d'apparitions dans les médias pour alerter les gens sur le contenu qui se retrouvait sur Pornhub. Et son mouvement, ça s'appelle Trafficking Hub. Elle dit que Pornhub est une scène de crime dans les faits et milite pour que la plateforme soit carrément fermée. C'est un personnage qui est assez controversé. Oui. Il y a quand même du vrai dans tout ce qui est dit. Elle est en contact avec bien des victimes, des modérateurs aussi. Elle a participé à toutes sortes d'actions en justice. Et donc, c'est un peu devenu le pôle des opposants de droite.
Conservateurs de l'extrême droite.
Ouais. Ouais. Non seulement, je dirais, non seulement à Pornhub, mais aussi à l'industrie de la pornographie en général. Donc, ça va au-delà d'une seule plateforme.
Nora La Montagne, vous parlez du cas d'une femme qui s'appelle Isabelle, dont la vidéo a été vue plus de 6 millions de fois. Alors, sur Pornhub, une vidéo évidemment qu'elle ne souhaitait pas avoir diffusée. Et le problème, c'est que il faut la faire supprimer sur le site. Comment ça se passe? Et ensuite, le problème, c'est que cette vidéo, elle se duplique et on la retrouve de site en site. Comment on peut faire dans un cas comme ça?
Ah oui, ça c'est quelque chose qui m'a profondément choquée personnellement parce que c'est des femmes, j'en ai rencontré trois, donc des femmes qui dont la vidéo s'est retrouvée sur Pornhub sans qu'elles le veuillent et qui, des années plus tard, la retrouve encore ailleurs. Même si elle a été supprimée de Pornhub, on peut encore la visionner sur un petit vidéo, site obscur russe ou une plateforme. Mais quand on cherche, on arrive à la retrouver. Et ça, c'est comme à quel point est-ce que le web rend les vidéos et les traces de notre passé complètement indélébiles. Je veux dire, la vidéo, au départ, se retrouve sur Pornhub qui sert un peu de catalyseur. Donc, on peut la diffuser à des millions d'internautes. C'est le cas d'Isabelle, c'est le cas de centaines de milliers de victimes aussi. Mais après, il y a toute une panoplie de petits sites qui reprennent des vidéos, qui les copient et qui, ça se retrouve éparpillé sur le web et ça devient pratiquement impossible à effacer ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, oui, Pornhub a un mécanisme pour demander le retrait des vidéos. C'est plutôt efficace, en fait, de ce que je peux en juger en date d'aujourd'hui. Mais le fait est que quand on parle à des sites qui sont basés dans des juridictions étrangères, en Russie, en Europe de l'Est, peu importe, en Chine, ça devient extrêmement difficile de demander le retrait et ce ne sont pas des sites qui nécessairement respectent la loi.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Manon Mariani, depuis le début de cette émission, vous riez de nous. Tabata Cash pour Cyril, Brigitte Lahaye pour moi. Mais s'il y a bien quelqu'un ici qui a vu évoluer le portail de Pornhub, c'est vous, Manon.
C'est dans le cadre de ma veille sanitaire, disiez-vous dans le bureau.
Mais quelle imitation,
dans
le cadre du célibat aussi, que vous avez bien connu, mais ça c'était avant. Oui. Vous nous présentez un visage, une voix. Si l'on veut aller plus loin sur le thème du jour, quelle est la personne à suivre?
Je vous présente Nikita Bellucci. Elle a 35 ans, elle est française et c'est l'une des actrices porno les plus célèbres de France. Son nom de famille est un hommage aux origines italiennes de sa famille et son prénom une référence au film de Luc Besson, Nikita, ce personnage de tueuse à gages, badass, interprété par Anne Parillo. Un prénom qu'elle n'a pas choisi au hasard. Nikita Bellucci entre dans l'industrie du porno au début des années 2010, à une époque où les plateformes explosent. Elle se fait rapidement un nom. En quelques années, elle tourne de nombreuses scènes, acquiert une notoriété importante, notamment aux États-Unis où elle fait des couvertures de magazines et gagne pas mal de prix. Mais étonnamment, en 2016, alors qu'elle est au sommet de sa carrière, Nikita Bellucci décide d'arrêter le porno. Elle dit avoir vécu un moment pas très cool avec un réalisateur. Elle décide alors de reprendre des études de médicale. Mais son passé la rattrape et elle se fait exclure de son école de formation. Elle subit les stéréotypes sexistes véhiculés par l'industrie du porno. On l'aperçoit comme une femme sale et incapable de faire autre chose que de jouer des scènes de sexe dans des films. La comédienne dit en avoir énormément souffert. Mais il en faut plus pour la battre. En 2018, elle prend la parole publiquement dans une vidéo de Combini pour dénoncer le cyberharcèlement dont elle est victime depuis des années.
On reçoit des menaces de mort, des insultes, on me dit « je te souhaite d'avoir le cancer du sein ». J'ai reçu dernièrement « j'aimerais te balancer de l'acide sur le visage pour savoir dans quoi tu vas te reconvertir plus tard quand tu pourras plus vendre ton corps ». Le problème, c'est que nous, on est amené à se battre toute seule. Et il n'y a pas de soutien, et psychologiquement, c'est ultra violent.
Nikita Bellucci interpelle notamment les associations féministes qu'elle juge totalement absentes pour défendre les droits des actrices porno. Elle dit même avoir renoncé à devenir mère à cause des campagnes de haine dont elle est victime, car elle ne veut pas que son enfant subisse un tel traitement. L'année suivante, Nikita Bellucci relance sa carrière dans le porno, mais cette fois-ci en changeant sa façon de faire. Elle milite pour un porno éthique. C'est elle qui produit son propre contenu, qui choisit ses acteurs et ses lieux. Le consentement devient son mot d'ordre. Elle participe aussi à plusieurs débats dans les médias pour faire de la prévention sur le porno, mais aussi sur des chaînes YouTube grand public, comme celle de McFly et Carlito. Aujourd'hui, elle est l'une des voix les plus puissantes en France contre la stigmatisation des travailleuses du sexe et le manque d'éducation au consentement. Elle se bat pour que les anciennes actrices X puissent avoir une vie après leur carrière, et il y a encore beaucoup de travail.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Il nous revient tout droit du Canada, encore plein de poutine et de sirop d'érable. On aurait pu croire qu'il avait pris sa mission de rédacteur en chef adjoint très à cœur en allant directement dans les bureaux de Pornhub.
Qu'est-ce que vous en savez?
À Montréal. Mais sa foi et son foie l'en ont empêché, je le sais très bien. Bonjour Pierre Courade.
Bonjour Manon, bonjour à tous. D'ailleurs, petite anecdote qui va à l'encontre de l'émission, c'est en ce moment que la sève d'érable redescend.
Ouais. Oh, dis donc,
merci,
super.
Merci Pierre.
Parfait.
Pierre,
le résumé de tout ce qu'on s'est dit, c'est vraiment les anecdotes de Pierre Courade.
On peut s'arrêter là, non ?
En une minute, c'est votre petit carnet.
Et notre invitée Nora Lamontagne nous a présenté son enquête consacrée à Pornhub, le géant du porno sur Internet. Plus de 130 millions de visiteurs quotidiens. Première info, Pornhub est québécois. Étonnant pour tous ceux qui ont déjà regardé du porno avec l'accent de la belle province, qui savent que ça fait immédiatement refluer le sirop d'érable. Québécois pour le siège, mais avec des filiales à Chypre, hébergeur et non pas producteur, Pornhub est une société insaisissable. Elle se joue des enquêtes journalistiques, notamment celle du New York Times qui a révélé en 2020 l'existence de milliers de vidéos pédopornographiques. Le site n'a décidé d'effacer ses contenus que sous la pression des sociétés de cartes bancaires. Même dans le sexe, l'argent c'est le nerf de la guerre et Pornhub en engrange beaucoup d'argent, notamment grâce à des contenus toujours plus trash, chiffre d'affaires évalué à plusieurs millions de dollars, ce qui lui permet de se payer des batteries d'avocats pour lui permettre de repousser les restrictions d'accès aux mineurs. Mmh. Autre problème, il n'y a quasiment aucune modération, seuls les clics comptent. Des jeunes filles se retrouvent malgré elles sur Pornhub, victimes de revenge porn. Du 7e ciel à l'enfer, sur Pornhub, il n'y a qu'un pas.
Merci Pierre Courade, 60 secondes chrono, bravo.
Merci.
Et vous alors, Rosa Weinstein, est-ce que Pornhub vous consommez ?
Je ne regarde jamais de porno, sauf quand je suis filmée. Voilà, pas en train de faire du porno, mais en train d'en regarder. Je lance bientôt la saison 2 de mon émission sur YouTube, L'un dans l'autre, où j'invite des amis à réagir avec moi à des films porno que le spectateur, lui, ne voit pas. Marie De Brouwer fera partie des guests. Elle a exigé des gangbangs, du Big Black Cock, de la Sodo et des scénarios avec des daddy issues, dont l'acteur principal ressemble à Cyril Lacarrière.
Oh,
exigeante, Marie, mais en fait, ça se trouve assez facilement.
Oui.
J'ai une deuxième annonce à vous faire. Je suis enceinte.
Oh,
merci.
Mais
merci.
Bravo. Bravo. Félicitations.
Ce n'était pas suite à un gangbang, je rassure tout le monde. Enfin, je crois pas. Enfin,
Rosa.
Non, les dates correspondent pas. Ça fait 3 mois et demi, voilà pourquoi je sentais le vomi. Pas uniquement parce que je m'habille en friperie. Et c'est aussi pourquoi je bâillais beaucoup. Donc stop la susceptibilité, Quentin. Il faut pas le prendre personnellement. Bien sûr que c'est passionnant quand tu parles de Formule 1. Et quant à la vie sexuelle de mon couple, on est loin de Pornhub. Dès qu'on a appris la bonne nouvelle fin janvier, on s'est mis en pause. Break du cul. Parce qu'avant, on n'en pouvait plus. On baisait avant les jours d'ovulation pour maximiser nos chances. On baisait avant, on baisait après. Bref, tous les jours, on était en burn-out. Et mon copain m'empêchait d'utiliser le sextoy. Il me disait non. Les vibrations, ça va éjecter ma précieuse semence. Donc on copulait dans un but reproductif, mais sans aucun horizon d'orgasme pour moi. Notre enfant n'est pas le fruit du plaisir, mais d'un acharnement méthodique de mormons adeptes de J.D. Vance, catégorie Amish. Je mettais une robe à fleurs, lui se laissait pousser une barbe dégueulasse, il mettait un chapeau de paille et c'était parti pour 3 minutes chrono en missionnaire, sous les draps, dans le noir, en demandant pardon pour notre péché de chair et le salut de nos âmes. Pendant les 3 premiers mois de ma grossesse gériatrique de vieille peau de 35 ans, Dixit, bah la nature, hein, cette salope misogyne, j'ai pris de l'aspégique et des ovules de progestérone matin et soir. Deuxième raison de pas baiser, ni le matin, ni le soir. Le matin, avant de mettre l'ovule, j'étais trop fatiguée. Puis une fois que je l'avais mise, on n'allait pas mélanger avec du sperme, faut que ça pose un peu comme une pâte à pizza. Voilà, si vous rajoutez du sperme, c'est trop salé.
Non.
Puis mon mec avait peur que sa bite au contact de la progestérone devienne une chatte, que des lèvres apparaissent sur son gland. Il est déconstruit, mais pas à ce point-là. Par contre, ça pourrait donner un bon film de Quentin Dupieux pour le Festival de Cannes. Le soir, on aurait pu baiser avant que je mette l'ovule, mais j'étais trop fatiguée. L'ovule était devenu mon rempart, ma ceinture de chasteté. Trottoir. Trop tard, j'ai mis l'ovule. Formule beaucoup plus moderne que Gémeragnagna. Après la fameuse migraine des années 80, les parcours de fertilité aujourd'hui, la sexualité à l'épreuve des perturbateurs endocriniens, des téléphones rangés dans la poche du jean, bien au chaud contre vos coucougnettes, messieurs. J'ai reçu un message ? Ah non, c'est mes spermatozoïdes qui gémissent. Tout ça m'a donné envie de réaliser mon film porno progressiste parce que les schémas traditionnels d'excitation doivent changer. La belle-mère avec un accent russe qui déboutonne la braguette de son beau-fils revenu de la guerre sous l'évier dans la cuisine ? Non. Oui, à des corps, des scènes réalistes. Un homme pas très musclé qui murmure tendrement à sa femme, pas du tout musclé non plus. Allez chérie, on va pas se laisser abattre par les fausses couches. On y retourne, je t'aime, courage. Et là, on clique, non ?
Félicitations encore, Rosa, et merci beaucoup. beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine quand même dans Zoom Zoom Zen et avant votre futur congé maternité à l'automne. Les spectateurs parisiens pourront assister à la dernière date parisienne de Dédoublé le lundi 16 juin à 21h au Théâtre de la Renaissance. Et bien sûr, vous continuez encore la tournée à Caen, Toulouse, Rennes, Poitiers. Toutes les dates sont sur votre site internet. Merci Nora Lamontagne de nous avoir éclairé sur les méandres de Pornhub. Je crois que Cyril et Quentin ont décidé de boycotter en allant maintenant sur X-Hamster. Je rappelle que vous étiez en direct de Montréal chez nos amis de Radio-Canada. Merci à eux aussi. Et votre livre « L'Empire du sexe, la grande enquête sur Pornhub » est disponible partout, publié par les éditions du journal. Vous l'avez coécrite, je le rappelle, avec Jean-François Cloutier et Nicolas Brasseur. Zoom Zoom Zen.